Merci Pauline pour cette introduction. Effectivement, ce qu'on va voir ce matin, notre sujet, donc vous allez voir, il y a plusieurs échos, que ce soit dans les chants qu'on avait chantés, mais également dans les prières que nous avons. Notre vie chrétienne est marquée d'événements marquants. On peut citer par exemple la conversion, la régénération, la justification ou encore l'adoption. Tous ces termes, quoique parfois compliqués à comprendre, ont tous un point commun. Tous ces événements instantanés et ponctuels ont eu lieu au début de notre vie chrétienne. Cependant, les conséquences de ces événements perdurent durant toute notre vie, durant toute notre marche avec Christ. Ce matin, notre message concerne un processus qui se poursuit durant toute notre vie ici-bas, où Dieu et l'homme vont coopérer, chacun dans un rôle précis. Je veux parler de la sanctification. La sanctification, frères et sœurs, est une œuvre progressive où Dieu et l'homme progressent. Donc c'est aussi une œuvre qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre vie quotidienne. Dans sa parole, à plusieurs reprises, Dieu nous invite à prendre au sérieux cet impératif, cet ordre. Et en tant que chrétien qui aimons Christ, parfois nous avons tendance à vouloir accéder à un niveau de sainteté par nos propres ressources, par nos propres moyens. Et pour arriver effectivement à ce niveau de sainteté, parfois on peut compter sur nous-mêmes, sur nos efforts personnels. Mais hélas, chaque jour qui passe nous rappelle que cette aspiration, cette volonté, aussi chrétienne soit-elle, ne sera jamais réalité. Frères et sœurs, nous sommes tous en effet appelés à la quête de la sainteté durant toute notre vie. Cependant, il ne s'agit pas d'atteindre un niveau donné, il s'agit simplement de demeurer dans la voie de la croissance. Croître dans la sainteté, voilà le dessein, voilà le plan de Dieu pour notre vie. La sanctification, en effet, nous l'avons dit, est le fruit de la collaboration de Dieu et de l'homme. On peut dire en effet que les deux parties travaillent ensemble. Toutefois, on va marquer une brève pause ici. Donc si nous disons que l'homme et Dieu coopèrent dans la sanctification, cela ne veut absolument pas dire que le rôle de l'un et l'autre sont identiques, ou que les deux travaillent de la même manière. En disant que l'homme coopère avec Dieu, c'est simplement à la mesure de son statut de créature, homme, créature de Dieu. Et le Nouveau Testament, en effet, à plusieurs reprises, insiste sur le rôle de la sanctification, ce qui nous permet d'affirmer que l'homme, que Dieu appelle l'homme à coopérer avec lui dans ce domaine. Ce matin, nous allons nous intéresser donc à un point particulier de ce grand thème qu'est la sanctification. Le thème de notre message est « La vie chrétienne, une vie marquée par la sainteté ». Avant d'aller plus loin, je vous invite, frères et sœurs, à garder deux vérités fondamentales en tête. La première est que la sanctification est essentiellement l'œuvre de Dieu. Donc, je cite Paul, « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint ». La seconde idée est que la discipline que Dieu le Père exerce envers ses enfants est un de ses aspects de la sanctification. Et je cite à nouveau Paul, qui nous dit « Dieu agit en vous pour produire le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour ». À présent, je vous invite à nous arrêter un instant sur un court texte qui se trouve en 1 Pierre chapitre 1, du verset 14 au verset 16. Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Donc, la vie chrétienne, une vie marquée par la sainteté. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant pour voir un point, c'est qu'une vie sainte, une vie marquée par la discipline personnelle. Une vie sainte, une vie marquée par la discipline personnelle. Notre vie quotidienne est marquée de résolutions brisées, de promesses non tenues. En début d'année, nous sommes plusieurs à prendre des résolutions, mais nous sommes rares à tenir encore ces engagements pris en début d'année. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons prendre aussi la décision de renoncer à un péché particulier. Mais hélas, bien souvent, cette décision de vouloir dominer un péché reste dépourvue de succès. Et malheureusement, nous ne faisons pas les progrès auxquels nous aspirons, mais les progrès auxquels nous les péchés sur lesquels nous voulons dominer. L'un des problèmes face à ce manque de persévérance dans nos résolutions peut se trouver dans la volonté d'obtenir une piété, une sainteté instantanée. Malheureusement, une telle chose n'existe pas. Et en tant qu'humain, en tant que chrétien, parfois on aimerait bien avoir à suivre des étapes infaillibles qui nous conduiraient vers une réussite assurée d'une vie pieuse, d'une vie sainte. Par exemple, il y a quelques années, lorsque je suis rentré à l'Institut biblique, j'avais l'assurance que, du fait de fréquenter une école biblique, que j'allais être libéré de tous mes péchés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Or, la piété ne s'obtient pas, ne s'acquiert pas ainsi. L'Écriture nous montre que mener une vie sainte, une vie pieuse, s'acquiert uniquement au moyen de la discipline chrétienne. Et pourtant, cette notion même de discipline peut paraître suspecte. En effet, la discipline peut sembler contraire à la liberté, à cette liberté que nous avons en Christ. On peut également suspecter la discipline de légalisme ou encore de rigorisme. Paul, ailleurs dans l'Écriture, nous exhorte avec vigueur de nous former, de nous discipliner, de nous exercer à la sainteté. L'apôtre, ailleurs dans l'Écriture encore, prend l'exemple d'un athlète qui s'impose une discipline rigoureuse pour gagner un prix terrestre, un prix corruptible. Donc, à plus forte raison, nous, chrétiens, devrions-nous nous discipliner pour gagner, pour obtenir une couronne qui dure pour toute l'éternité. Frères et sœurs, la discipline dont nous parlons ce matin est une discipline qui doit corriger, façonner et perfectionner notre mentalité, notre moralité. Une telle discipline commence tout d'abord par la parole de Dieu. La parole de Dieu, en effet, est utile pour enseigner, redresser et éduquer. Et dans sa parole, il y a énormément d'exhortations, de commandements qui nous invitent à nous laisser transformer, à nous laisser renouveler par elle. Vous l'aurez compris, la sanctification, mener une vie sainte, passe par une lecture régulière de la parole de Dieu, suivie d'une application dans notre quotidien. En plus de la parole de Dieu elle-même, le Seigneur nous a laissé une aide ô combien précieuse pour nous aider. Une grande partie de l'Esprit Saint consiste à nous rappeler les armes dont nous avons besoin pour vaincre, pour affronter les tentations. Tandis que nous cherchons à appliquer la parole de Dieu dans notre quotidien, l'Esprit Saint agit en nous pour nous fortifier, pour nous aider à mieux vaincre le péché. Frères et sœurs, quelle aide précieuse avons-nous là? Christ ne nous a pas laissés seuls dans notre marche ici-bas. Et dans l'attente de son retour, efforçons-nous en comptant sur l'aide divine, sur l'aide de l'Esprit Saint. Nous voyons donc l'importance de réserver chaque jour un temps, un moment, un créneau précis pour lire et étudier la parole de Dieu. Et tout chrétien qui fait des progrès en sainteté, en piété, est un chrétien qui passe régulièrement du temps à lire et à étudier sa parole. Faisant cela, nous pouvons également avoir l'assurance que Satan nous attaquera. Il cherchera à nous convaincre que nous avons trop sommeil le matin, que nous sommes trop fatigués le soir, ou encore que nous sommes trop occupés dans la journée. Il faudra donc redoubler de discipline et de vigilance pour consacrer ce temps très précieux dans notre emploi du temps qui peut être très chargé. Oui, frères et sœurs, ce matin, je m'invite à faire cela. Et forcément, une telle décision demande une discipline dans nos autres activités. Par exemple, si pour moi le matin est le meilleur moment de lire et d'étudier la parole de Dieu, forcément, il faudra que je me couche plus tôt la veille. Donc cela me demande aussi une discipline dans ma vie. Ce ne sera pas facile, mais il faut que je me discipline. Prendre l'habitude de lire la parole de Dieu en vue d'une vie sainte nécessite aussi une certaine méthode. Bien souvent, en tout cas c'est mon cas, parfois quand je prie pour un péché particulier, j'ai tendance à rester vague. Par nature, nous sommes pécheurs et tout naturellement, nous avons adopté certains comportements, certaines habitudes déplaisantes envers Dieu. Et de telles habitudes, de telles pratiques ne s'en iront pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de se dire « j'arrête de pécher ou je ne referai plus ce péché-là ». Pendant que nous lisons la Bible, frères et sœurs, méditons la parole de Dieu en nous posant trois questions. La première question que nous pouvons nous poser, quel est l'enseignement de la Bible? Quel est l'enseignement de ce passage sur la volonté de Dieu pour mener une vie sainte? Quel est l'enseignement de ce passage sur la volonté de Dieu pour mener une vie sainte? Une seconde question que nous pouvons nous poser, dans quelle mesure ma vie satisfait-elle aux exigences de Dieu? Dans quelle mesure ma vie satisfait, correspond, est conforme à ce que Dieu me demande? Et dans quel domaine ma vie est défaillante? Donc forcément, le fait de se poser cette question implique de ne pas se contenter de généralité, mais de mettre le point sur les points déplaisants, de les remettre entre les mains du Seigneur afin qu'il nous transforme par l'œuvre, par l'action de son Esprit Saint. Une troisième question que nous pouvons nous poser, quelles actions pouvons-nous prendre pour obéir à Dieu? Donc là aussi, cela nécessite des actions concrètes, mais également des actions courageuses. Cette première partie de la lecture biblique, de l'étude biblique, est essentielle parce que c'est l'application même des Écritures à des situations précises de notre vie. Une vie marquée par la sainteté. Une vie sainte, une vie marquée par la discipline personnelle. Maintenant, nous allons voir une autre partie. Une vie sainte, une vie marquée par la vigilance de notre esprit. Frères et sœurs, en plus de la lecture, de l'étude de la parole de Dieu, une vie de sainteté nécessite la maîtrise de nos pensées, de nos idées. Et pour Dieu, nos pensées importent tout autant que nos actions. Il les connaît tout aussi bien. Nous devons apprendre à maîtriser et à soumettre l'obéissance de Jésus-Christ aussi bien nos désirs physiques que notre vie intérieure. Nous devons également rester vigilants concernant les tentatives à soumettre notre corps sans soumettre nos pensées. Et en tant que chrétien, parfois cela peut être très facile, effectivement, de maîtriser certaines choses naturelles de notre corps tout en étant intérieurement rempli de souillure. Les Écritures et particulièrement les livres de sagesse nous mettent en garde contre une telle chose. Et les pensées que nous avons forgent notre caractère. L'apôtre Paul, ailleurs dans l'Écriture, nous invite à nourrir nos pensées, nos idées, de tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. En tant que chrétiens, frères et sœurs, cessons de nous conformer aux habitudes de ce monde pour être renouvelés dans notre intelligence. La sainteté, effectivement, naît dans notre esprit et se concrétise dans nos actes, dans nos actions. De ce fait, tout ce que nous autorisons à pénétrer dans notre esprit, dans nos idées, a une importance capitale. Les programmes de télévision que nous regardons, les livres et les revues que nous lisons, la musique que nous écoutons, les conversations que nous avons, tout cela va affecter notre esprit. Frères et sœurs, que nous puissions être vigilants et prenons l'habitude d'évaluer ces préoccupations en utilisant l'Écriture comme norme, comme référence. Les pensées suscitées par de telles occupations, sont-elles vraies? Sont-elles pures? Sont-elles agréables? Sont-elles dignes d'approbation? Méritent-elles respect et louange? Pour autant, garder nos pensées des choses qui déplaisent à Dieu est extrêmement difficile. Parfois, nous pouvons nous laisser persuader, nous pouvons céder devant la pression du monde. Je pense que nous avons tous en tête quelques péchés, par exemple. On peut citer l'impureté sexuelle, l'immoralité, la débauche. Mais pour nous, il y a parfois d'autres péchés que nous jugeons plus acceptables. Par exemple, on peut citer le mensonge, la convoitise, la médisance ou encore la jalousie. Hélas, parfois nous avons tendance à rester vigilants par rapport à cette seconde catégorie de péchés. Nous sommes si souvent, en effet, parfois obnubilés par les péchés d'ordre sexuel, par les péchés beaucoup plus voyants, beaucoup plus visibles, que nous négligeons notre vie intérieure où règnent l'orgueil, la rancune, l'envie, la médisance. Et dans l'évangile de Luc, nous avons un exemple type. Rappelez-vous de l'histoire du fils prodigue. Le fils aîné en est l'exemple. Sa vie publique est en effet irréprochable. Mais intérieurement, le fils aîné est dévoré par la jalousie et par l'autosatisfaction. Il affirme à son père qu'il n'a jamais désobéi, mais intérieurement, il garde rancune et colère envers son frère. Toutes ces attitudes, envie, jalousie, amertume, refus de pardonner, esprit de vengeance, nous empêchent d'être saints devant Dieu. Et elles sont tout aussi répréhensibles et condamnables que l'immoralité, la débauche, l'envie. Par conséquent, frères et sœurs, efforçons-nous d'arracher avec persévérance de notre esprit la racine de ces mauvaises pensées. Remettons à Dieu chaque jour dans la prière et demandons à notre Père humilité et grâce pour la discipline nécessaire afin d'éradiquer ces pensées et les remplacer par des actions agréables à Dieu. La vie chrétienne, donc, une vie marquée par la discipline personnelle. La vie chrétienne, une vie marquée par la vigilance de notre esprit, de nos pensées. La vie chrétienne, c'est également une vie marquée par la sainteté, par la joie. Donc, mener une vie sainte, une vie plaisante à Dieu, demande des efforts considérables de notre part. Nous l'avons vu. Dieu nous appelle effectivement à mener, à le suivre, une vie sainte. Pour autant, le Seigneur veut que notre vie chrétienne soit une vie de joie et non de corvée. Frères et sœurs, prenons garde de ne pas croire à cette caricature que la sainteté est une vie austère, une vie dépourvue de plaisir et de joie. Et en tant que chrétien, c'est tout l'inverse. En effet, la Bible nous rappelle que seuls ceux qui marchent avec Christ dans la sainteté connaissent une joie véritable. Jésus lui-même le dit dans sa parole, « Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et en affirmant une telle chose à ses disciples, Jésus fait un lien direct entre l'obéissance et la joie. Donc la joie que nous avons en Christ est le résultat de l'obéissance. Et seuls ceux qui sont obéissants, qui consacrent leur vie à la recherche de la sainteté auquel Dieu nous appelle, connaissent la véritable joie qui vient du Seigneur. Comment, de quelle façon, la sainteté produit-elle la joie? Tout d'abord, la joie réside dans le fait de la communion, de communier avec Dieu. La communion, effectivement, avec Dieu produit en nous du plaisir, de la joie. David, par exemple, s'exprime ainsi. « La joie abonde près de ta face, à ta droite des délices partagées. » La joie, en effet, la véritable joie, ne vient que de Dieu. Et cette joie est aussi partagée. Dieu partage sa joie avec nous qui marchons en communion avec lui. Une autre source de joie est la certitude que nous avons en obéissant à Dieu, que nous avons cessé de lui résister dans un domaine particulier de notre vie. En effet, le fait, cette joie est encore plus belle, plus vive, quand après un long combat avec l'esprit et notre nature de péché, nous nous sommes finalement débarrassés par la grâce de Dieu d'une habitude de péché qui nous rongeait, qui nous assaillait depuis trop longtemps. Donc ce sentiment de vaincre le péché procure en nous une joie. Et cette joie est le résultat de notre obéissance à Dieu à mener une vie sainte. Mener une vie sainte ne produit pas seulement des joies dans la vie ici-bas, mais aussi des joies dans la vie à venir. Marcher dans la sainteté, libérés de l'emprise du péché qui nous dominait, nous pouvons nous attendre à entrer dans la joie du Seigneur si nous persévérons jusqu'à son retour. La joie, effectivement, est le résultat d'une vie sainte. Mais à certains égards, la joie est aussi la source d'une vie sainte. Par exemple, le chrétien qui vit dans la désobéissance vit sans joie et sans espérance. Mais lorsque ce chrétien va commencer à comprendre que Jésus-Christ l'a délivré du pouvoir du péché, lorsqu'il commence à réaliser qu'il est possible de marcher dans l'obéissance, alors il commence à espérer en Christ. Et en espérant en Christ, il commence à avoir de la joie. Il triomphe petit à petit des péchés qui l'enveloppent. Et finalement, il constate que la joie d'une vie sainte est infiniment plus satisfaisante, plus précieuse que les plaisirs éphémères de la vie, du péché. Frères et sœurs, pour connaître cette joie, il nous faut faire des choix. Choisissons de renoncer au péché, non seulement à cause des effets néfastes du péché dans notre vie, mais aussi parce que le péché attriste le cœur de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes morts au péché, libérés de sa domination. Nous pouvons donc dire non au péché. Acceptons également de discipliner notre vie pour être obéissants, pour obéir au commandement de Dieu. Dans cette quête, effectivement, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a déjà tout fourni. Dieu nous a fourni tout ce dont nous avons besoin. Il nous a libérés de l'emprise du péché et il nous a donné l'Esprit Saint qui habite en nous. Et sa parole nous révèle sa volonté concernant la sainteté. Et Dieu lui-même crée en nous le vouloir et le faire. Au sein de notre communauté baptiste, Dieu nous donne également des personnes qui sont là pour nous guider, pour nous exhorter, pour nous encourager sur cette voie. Dieu répond à nos prières et nous donne la force de résister à la tentation. La balle, en effet, maintenant, est dans notre camp. Qu'allons-nous faire? Allons-nous accepter notre responsabilité? Allons-nous nous discipliner et à vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu? Allons-nous persévérer malgré les échecs fréquents? Serons-nous résolus de ne jamais baisser les bras? Estimerons-nous que notre vie, notre sainteté, vaut la peine de dire non aux exigences de notre corps, de notre esprit? Frères et sœurs, notre Dieu nous ordonne d'être saints. Non seulement il nous l'ordonne, il nous fournit les moyens de l'être. Alors, acceptons de nous imposer une certaine discipline. Soyons vigilants à nos pensées, à ce qui façonne notre caractère, afin que nous puissions connaître, que nous puissions continuer de vivre cette joie que Christ a promise à ceux qui marchent avec lui dans sa volonté. Amen. Et juste pour finir, j'aimerais lire un passage de Paul où il exhorte effectivement les églises de Rome, où Paul dit ceci. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que maintenant, vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Amen. Et je vous invite à observer un temps de silence pour aussi demander à Dieu de nous aider effectivement dans cette marche quotidienne. Et aussi, nous pouvons, je pense, compter les uns sur les autres. Peut-être, pourquoi pas, demander l'aide dans la prière à un frère ou une sœur ou l'équipe pastorale ou d'autres personnes de l'Église. Nous savons que cette quête auquel Dieu nous appelle, effectivement, ce n'est pas un niveau, c'est une marche qui est progressive. Et que, bien évidemment, parfois, nous allons tomber, nous allons échouer, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est vraiment de persévérer jusqu'au bout et que lorsque Jésus-Christ va revenir, ainsi nous aurons la joie d'être avec lui, d'être encore plus au bénéfice de cette promesse. Seigneur, nous l'avons chanté, nous l'avons prié. Tu as tout fait pour nous. En tout, nous avons déjà tout. Et nous voulons simplement te remercier pour cela. Merci parce que tu nous appelles à faire des choses. Tu as également tout prévu. Que nous puissions, Père, nous mettre à l'écoute de la parole. Que nous puissions la lire quotidiennement, nous laisser façonner par elle. Que nous puissions aussi laisser l'Esprit œuvrer chaque jour dans notre vie. Seigneur, que nous puissions être vigilants, personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Sois avec nous, aide-nous à vaincre ces habitudes de péché. Oui, Seigneur, aide-nous à vaincre ces habitudes de péché. Au nom de ton Fils Jésus et par ton Esprit Saint. Amen. Et je laisse la place à Pauline.